Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme dont voici les principaux titres. Le Saint-Père est revenu sur son 38e voyage apostolique au Kazakhstan lors de sa catéchèse à l'audience générale de mercredi. Nous y revenons en détail après les titres. L'enlèvement de 9 personnes, dont 5 prêtres, une religieuse et 3 laïcs dans l'assaut de l'église Sainte-Marie dans le village de Nchang au Cameroun, est un enlèvement avec demande de rançon. Amnesty International accuse les autorités égyptiennes de continuer à étouffer les libertés à 6 semaines de l'ouverture de la COP27 dans le pays. Le reste de l'actualité africaine nous mènera entre autres au Sénégal, au Niger. Voilà pour les titres. Les détails, c'est tout de suite dans ce programme que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Christian Combé.
Au cours de l'audience générale de mercredi, le pape François est revenu dans sa catéchèse sur ses moments vécus lors de son 38e voyage apostolique effectué du 13 au 15 septembre 2022 au Kazakhstan à l'occasion du 7e congrès des religions mondiales et traditionnelles. Ce voyage a été un moment de rencontre et dialogue pour promouvoir la paix et la fraternité, mais aussi un moment de consolation et de communion avec l'église locale. Myriam Sanduno.
Participer au congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles, c'était la raison principale du voyage du pape. François n'a pas été déçu. Cette initiative des autorités kazakhes depuis maintenant 20 ans fut en effet pour lui un lieu de rencontre et de dialogue. Invitant cette nation à être un pays de rencontre, le pape estime qu'aujourd'hui, le Kazakhstan propose une voie de civilisation qui associe politique et religion.
Outre le congrès, ce voyage m'a donné un mode de rencontrer les autorités du Kazakhstan. Et la chiesa qui vit en quella terra.
Ce voyage a également permis au Saint-Père de faire la rencontre d'une communauté chrétienne joyeuse dans un pays où les catholiques sont peu nombreux. Cette condition, selon le pape, si elle est vécue avec foi, peut porter des fruits évangéliques. Il a appelé les catholiques à développer des relations avec les chrétiens d'autres confessions, à être le petit troupeau ouvert mais pas fermé, confiant dans l'action de l'Esprit-Saint, qui souffre librement, où et comme il veut.
Merci Myriam. Le pape François a exprimé sa proximité et ses prières aux personnes touchées par l'ouragan Fiona en République dominicaine et à Porto Rico. Le Saint-Père, profondément attristé d'apprendre les catastrophes naturelles qui ont frappé le pays ces dernières heures à cause de l'ouragan Fiona, causant de nombreuses victimes et des dégâts matériels, élève sa fervente prière au Père très clément, lui demandant d'accorder sa consolation, indiquent les télégrammes signés par le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, et envoyés au président des épiscopats respectifs. L'ouragan, qui a déjà atteint la catégorie 4, a causé de regrettables pertes humaines et d'innombrables dégâts matériels lors de son passage dans ces nations des Caraïbes. Direction l'église Famille de Dieu en Afrique. L'enlèvement de 9 personnes, dont 5 prêtres, une religieuse et 3 laïcs, dans l'assaut de l'église Sainte-Marie dans le village de Nchang au Cameroun, est un enlèvement avec demande de rançon. C'est ce qu'a déclaré Mgr Andrew Nkeya Fwanya, archevêque de Bamenda, précisant que les ravisseurs ont exigé une rançon. Mgr Nkeya a ajouté que certains groupes considéraient l'église comme une cible facile pour faire de l'argent. L'église Sainte-Marie de Nchang, dans le diocèse de Mamfé, avait été attaquée et incendiée dans la soirée du vendredi 16 septembre par un groupe armé. Les assaillants avaient enlevé 5 prêtres, une religieuse et 3 laïcs après l'embuscade. En République démocratique du Congo, le diocèse de Kolwezi a débuté la nouvelle année pastorale avec l'annonce de l'ouverture d'une école théologique pour les laïcs. Une annonce faite par l'ordinaire du lieu, Mgr Richard Kazadi, au cours de la messe du dimanche dernier. Le compte-rendu de Jean-Baptiste Malengue.
Au diocèse de Kolwezi, dans la province du Lualaba, une école théologique pour les laïcs ouvrira bientôt pour l'affermissement de la foi par la connaissance des saintes écritures. L'annonce en a été faite le dimanche 18 septembre par l'évêque de Kolwezi, Mgr Richard Kazadi. Il célébrait sur le domaine marial de Kolwezi la messe pour l'ouverture de l'année pastorale, la première de son épiscopat. L'évêque de Kolwezi a aussi annoncé l'ouverture de 5 nouvelles paroisses dans les doyennés du Cap Kapanga, Dilolo et Sandoa, où il vient d'effectuer une visite pastorale. L'évêque envisage également la création de 17 nouvelles paroisses à Kolwezi. Le dimanche, l'évêque a invité les fidèles à contribuer de leur argent et l'engouement était visible à la fin de la messe, au moment où nombreux sont venus apporter leurs dons. Les paroisses ont été bien préparées à cette collecte de fonds. 60 prêtres ont concélébré. Ils ont participé à 3 jours de session de formation des prêtres et des laïcs, animés par les pères franciscains Gustave Mbak et Georges Mbayo, et par le père salésien de Don Bosco, Dieudonné Makola, sur la pastorale catéchétique, sur l'écriture sainte et l'annonce de l'évangile. Jean-Baptiste Malengue Kalonzou pour Radio Vatican.
Passons à présent à notre page sur l'actualité sociale et politique en Afrique que nous ouvrons avec le Sénégal. La justice a confirmé mercredi la condamnation du maire de Dakar, Barthélémy Diass, à 2 ans de prison dont 6 mois ferme dans une affaire d'homicide remontant à 2011 sur fond de tensions exacerbées entre l'opposition et le pouvoir. Les avocats du maire de la capitale sénégalaise ont indiqué ne pas être satisfaits de cette décision et ont exprimé leur intention de se pourvoir en cassation. Amnesty International a accusé mercredi les autorités égyptiennes de continuer à étouffer les libertés à 6 semaines de l'ouverture en Égypte de la conférence mondiale de l'ONU sur le climat, COP27. Selon Agnès Calamar, secrétaire générale d'Amnesty International, les autorités égyptiennes utilisent depuis 2021 une stratégie nationale visant à dissimuler leurs violations incessantes des droits humains. Au Niger, au moins 11 agriculteurs, dont 9 Nigériens et 2 Nigérians, ont été exécutés par balle mardi par des djihadistes présumés du groupe Boko Haram dans le sud-est du pays, a annoncé mercredi le maire d'une commune proche du lieu de l'attaque. L'ambassadeur de l'Éthiopie auprès de l'ONU à Genève a rejeté mardi un rapport d'enquêteurs de l'ONU qui accuse Addis Abeba de possibles crimes contre l'humanité au Tigré et d'utiliser la famine comme arme de guerre. Il n'y a pas une seule preuve qui montre que le gouvernement éthiopien a utilisé l'aide humanitaire comme un instrument de guerre, a déclaré l'ambassadeur Zenebe Kebede, représentant permanent de l'Éthiopie auprès des Nations Unies à Genève. Terminons cette page d'actualité avec la République démocratique du Congo. Le lieutenant général Philémon Yav Irung, commandant des opérations militaires contre le groupe rebelle M23 au Nord Kivu, dans l'est du pays, a été arrêté et écroué, ont annoncé mardi des médias congolais, évoquant des soupçons de haute trahison. La conférence épiscopale du Tchad s'est retirée du dialogue national inclusif et souverain mis en place par les autorités de transition. La décision a été prise le 10 septembre dernier avant d'être rendue publique quelques jours plus tard. Face aux dysfonctionnements persistants, la conférence épiscopale tchadienne refuse de continuer à faire de la figuration, note le texte des évêques. Les explications de Mgr Martin Wayinge Bani, évêque de Doba au Tchad et membre de la délégation officielle de la conférence épiscopale au dialogue national inclusif et souverain dans cette interview.
Disons globalement, l'objectif de ce dialogue, c'était une voie pour rétablir l'ordre constitutionnel qui a été rompu avec le décès du président de la République et qui a occasionné la mise en place d'un conseil militaire de transition. Donc, il voudrait jeter les bases d'un nouveau pacte social autour duquel il faut faire sortir un nouveau organe de transition qui va préparer les élections et avec les élections rétablir l'ordre constitutionnel. Il avait aussi l'objectif de vouloir réconcilier tous les pays du Tchad.
Monseigneur, le dialogue national inclusif et souverain au Tchad s'est donc ouvert le samedi 20 août dernier. 2 semaines plus tard, la conférence épiscopale suspend sa participation, puis confirme son retrait le 10 septembre. Comment comprendre ce désengagement de l'Église vis-à-vis du processus?
Vous voyez, quand on veut construire une maison, les fondations sont importantes. Hein, et les fondations, c'est l'adoption un peu des règlements intérieurs, tels qu'ils vont être des biens pour diriger le débat, il faut une certaine mentalité, ainsi de suite, et l'agenda. Donc c'est à ce niveau qu'on a vu que les choses ne se sont pas passées comme les années 90 à 93 avec la conférence nationale souveraine.
Alors concrètement, qu'est-ce qui a suscité le retrait définitif de l'Église catholique de ce processus?
C'est la manière dont l'adoption du règlement intérieur qui est important parce que c'est là où c'est écrit aussi les modalités de vote, de résolution, tout cela, ça a été adopté de manière très confuse par démocratique et aussi la désignation du présidium qui devrait présider le travail qui devrait être neutre. Dans cette manière de faire, on a l'impression qu'il y a un groupe effectivement qui veut mettre la main sur ce processus parce que malgré la protestation, la frustration des autres, au lieu de revoir les choses et de revenir derrière, sur cela pour qu'on fasse les choses de manière vraiment démocratique, pour que ceux qui sont dehors soient attirés, on a continué. Au fur et à mesure que les travaux avançaient, beaucoup revenaient toujours sur ce règlement intérieur, sur le président qui n'a pas été vraiment mis en place de manière démocratique. Donc, nous aussi, on était là présents, on a vu la manière dont les choses se sont passées. Donc, on a vu que, telles que les choses sont parties, c'est mal parti, les règles ne sont pas bien fondées, bien posées, on risque d'avoir des problèmes.
Monseigneur, est-ce que la conférence épiscopale a interpellé les organisateurs sur ces points que vous dénoncez aujourd'hui?
Bon, d'abord, la prise de parole était très, très difficile au début pour avoir la parole sur tout un tas de problèmes. Ce qu'on avait voulu, on a voulu même l'exprimer avant, mais c'est très, très difficile d'avoir la parole parce que la salle était bondée. Et ceux qui distribuaient la parole, c'était pas comme beaucoup l'ont dénoncé aussi, hein. C'était très sélectif. Donc, il y a toutes ces choses-là qui nous ont frustrés comme les autres participants aussi.
Alors, vous avez dit que ce dialogue n'était pas inclusif, mais l'Église catholique a accepté de participer. Vous acceptez tout en sachant que ce dialogue, depuis la base, n'était pas inclusif, et maintenant vous vous retirez de ce dialogue. Pourquoi alors vouloir participer tout en sachant que c'était pas inclusif dès le départ?
On vous a dit la nécessité de contexte dans lequel de tenir ce dialogue. C'est le contexte de la transition. On était là aussi. Bon, il y avait quand même quelques parties de l'opposition là, mais la grande partie était dehors. Et nous avons exprimé dans notre note que notre retrait, c'était justement pour aider aussi et nous avons continué à dialoguer avec ceux qui sont dehors pour qu'ils puissent rejoindre ce dialogue afin qu'il y ait plus d'inclusivité.
Qu'est-ce qui pourrait faire revenir l'Église catholique, la conférence épiscopale, dans ce dialogue national inclusif et souverain au Tchad?
Les choses telles qu'on avait envisagé, ce n'est pas possible parce que au fur et à mesure qu'on essayait de faire cette médiation là avec les autres pour pouvoir rapprocher les points de vue, et les choses ont avancé à une vitesse assez rapide. Donc nous on s'est demandé mais à quoi ça sert d'aller faire la figuration quand d'abord les choses pour lesquelles on a été frustrés ne sont pas corrigées et en même temps qu'on continuait la négociation, il y avait pas un cadre d'écoute, de réciproque les uns les autres. Donc, c'est un peu cela qui a rendu un peu difficile notre position et on a dit c'est pas la peine de continuer, on s'est retiré. La délégation officielle des évêques, ce n'est pas tous les chrétiens qui sont appelés, catholiques qui sont appelés à quitter l'île.
C'était Monseigneur Waingé Bani, évêque de Doba au Tchad et membre de la délégation officielle de la conférence épiscopale au dialogue national inclusif et souverain dans des propos recueillis par Françoise Niamia.
Vaccin pour tous.
Que faire lorsqu'on est malade de la COVID-19? Que recommandent les professionnels de la santé? La réponse à ces questions dans cette minute vaccin.
Malade de la COVID-19, que dois-je faire? Les professionnels de la santé recommandent aux personnes malades de la COVID-19 de rester chez elles, se confiner, prendre sa température 2 fois par jour, puis prendre du paracétamol pour faire baisser la fièvre, mais pas plus d'1 gramme, 3 fois par jour, ne pas prendre également d'anti-inflammatoires comme l'ubuprofène, sans l'avis d'un médecin. Le malade doit éviter les contacts avec les autres personnes de la maison. Si possible, ne pas les toucher, ni les embrasser, se tenir à une distance physique de plus d'un mètre. Se laver régulièrement les mains, surtout éviter les personnes atteintes de maladies chroniques et respiratoires, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées qui sont plus exposées à la maladie. Surtout, il faut aérer les pièces de vie en ouvrant plusieurs fois par jour pendant 30 minutes les fenêtres de la pièce où le malade réside. Le mieux, selon les professionnels de la santé, c'est de rester chez soi en appliquant rigoureusement les recommandations de son médecin pour éviter de propager la maladie autour de soi.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Mesdames et messieurs, amis auditeurs, c'est ici que s'achève cette édition de notre programme que Christian Kombé a eu le plaisir de vous présenter. Et merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Le prochain rendez-vous, c'est demain, même heure, même fréquence et même radio.